C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Ça pourrait commencer comme un conte. Il était une fois une équipe d'artistes et techniciens du spectacle accueillis en résidence depuis presque 7 ans dans un grand quartier populaire à cheval sur Nantes et Saint-Herblain. En pleine tempête de confinement, d'annulation, de report et autres réjouissances, cette équipe se demandait comment être utile quand soudain Angèle Gauduchot, sa directrice artistique, eut une idée.
Ta ta ta. Oui.
Bonjour Anne-Gaëlle.
Bonjour Charles-Cécile. Jusqu'ici, on a des locaux qui nous sont mis à disposition par la mairie, mais pas réellement subvention de fonctionnement. Enfin, on a 1 000 euros de subvention de fonctionnement, ce qui est vraiment très très peu. Et en période de Covid, protéger les artistes et les techniciens qui sont notre famille professionnelle, maintenir une structure en ordre de marge quand l'essentiel de nos financements provient normalement des marges qu'on fait sur les ventes des spectacles, eh bien, disons que c'est un peu acrobatique. Et puis, une équipe, c'est donc des gens, et les gens ont besoin de participer à des actions qui ont du sens, d'autant plus quand la conjoncture est difficile. Et on pourrait dire que c'est un peu mon travail d'artiste, ça, d'amener des idées réjouissantes, quelquefois un peu folles, des défis qui donnent envie de se relever les manches. Alors c'est vrai que quelquefois le bureau de la Lune Rousse me dit pop pop pop, on se calme. Mais enfin, là, ce qu'on avait remarqué, c'est que sur le quartier, il y a des femmes qui se battent pour apporter de l'aide alimentaire, pour arrondir les angles entre les voisins, pour organiser la solidarité, etc., etc. Et je me suis dit que on pouvait profiter de ce temps-là où on n'était pas en tournée pour rencontrer ces femmes et puis honorer leur action discrète et en même temps importante. Et c'est comme ça que le début du projet Héroïne du quotidien est né.
Same old, same bed. Me. pourquoi avoir pensé à moi et pourquoi m'avoir choisi
Aïcha
pour faire mon portrait. T'arrives aussi à un moment où je suis en train de faire le bilan de 30 ans de vie à Nantes, dont plus de 20 ans d'engagement en tant que femme. Et c'est un engagement citoyen qui est ancré en moi, qui peut parfois me porter préjudice ou en difficulté, parce que cet engagement citoyen, je l'ai autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais tu arrives à un point nommé, mais je me suis dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Je viens d'une famille nombreuse, de parents pas instruits, qui étaient illettrés. Ils avaient une culture énorme, une richesse énorme, mais on n'avait pas de figure importante, en tout cas de femmes engagées, de... Moi, mes plus belles figures, c'est ma mère, quoi. C'est ma mère, et quand je vois qu'elle a fait 10 gamins et qu'elle les a élevés, qu'elle, dans des conditions parfois difficiles, dans la pauvreté, mais... Donc moi, ma plus grande figure, c'est ma mère.
Zakia.
Pour moi, une héroïne, c'est celle qui réussit dans sa vie l'éducation de ses enfants, son couple, son travail, ses projets, et tenir compte pour et réussir dans sa vie ses ambitions, ne pas lâcher. Quand on veut atteindre le sommet, je persiste, même si j'échoue, je monte. Je veux pas qu'on me, même si on met des, j'échoue moi-même ou on met des bâtons dans les roues, je ferai tout pour pouvoir accéder à ce que je veux. Il faut ci, il faut ça, il y a toujours des choses à redire, mais en fait, il faut juste donner la chance à la personne et pour qu'elle puisse avancer et pas la stopper, et si c'est une personne qui est fragile et qui ne se bat pas, elle va pas pouvoir aller au-delà. Et moi, c'est pas... Ouais, je me laisse pas faire, ouais. Ouais. Je tiens ça de mon père. Oui, ma mère aussi, elle a du caractère, ouais. Elle se laisse pas faire aussi, ouais. Je tiens ça de ma famille, réellement, oui. Je tiens ça de personne d'autre que de ma famille. Je pense que c'est génétique parce que ma grand-mère et tout ça étaient comme ça. Ils ne se laissaient pas faire. Du coup, moi, je tiens ça, oui. J'ai mes ambitions, mais je les ai acquises tardivement, mais parce que je me suis battue pour. Je suis passée par des étapes difficiles dans ma vie, extrêmement difficiles. Et je me suis vue partir et je me suis dit non. Fini tout ça et je change tout. J'ai toujours eu cette envie depuis très très jeune. Et c'était resté dans ma tête, endormi. Et un jour, ça s'est réveillé. Je me suis dit non, je ne me laisserai plus faire. Je ne me laisserai plus faire marcher sur les pieds, sur les doigts, peu importe, je ferai tout. Et finalement, j'ai abouti à ça. Et mes sœurs, c'est le cas de le dire, oui. C'est des héroïnes pour moi.
Françoise.
Alors pour moi, une héroïne, c'est une femme qui porte haut le drapeau de sa propre liberté. Ça ne veut pas dire de s'opposer à rien du tout, ni aux conventions, ni à l'harmonie qui peut régner entre un homme et une femme dans un couple, ni à tout ça, ni à ce qui peut construire depuis des millénaires justement l'équilibre entre les hommes et les femmes. Pour moi, porter haut le drapeau de ma liberté, ça veut dire il faut bien se connaître, il faut être conscient de ses limites, avoir toujours envie d'apprendre, se savoir imparfait et mesurer l'étendue de son ignorance en permanence. Le jardinage est un moyen d'aller vers la connaissance de soi et donc sa propre liberté, qui est très très concrètement accessible, on va dire accessible à tous. Il y a pas de... c'est pas clivant le jardinage. Moi, je jardine dans trois jardins, au pied de chez moi, à Pollen et Colombol et au Petit Bévert. Mais dans le groupe des jardiniers amateurs, on jardine tous dans au moins trois jardins. Ce qui fait que je ne laisse pas tomber, c'est l'intime conviction qu'on va terriblement avoir besoin des jardins pour manger dans quelques temps. On monte à plus de degrés au niveau planétaire et plus de degrés, c'est l'insécurité alimentaire généralisée. On peut partager, ancrer l'entraide dans le quartier avant que cette insécurité alimentaire arrive. Je pense que c'est fondamental pour tout le monde. Pour tout le monde. Si au moment où ça va devenir, on est un groupe fort qui mène des actions qui sont discrètes mais visibles, qu'on est identifié et que les gens savent qu'ils peuvent venir vers nous pour nous demander conseil ou pour qu'on vienne les aider à implanter du jardinage au pied de chez eux, et qu'en même temps on ait suffisamment travaillé avec les institutions pour lever tous les obstacles institutionnels. Donc c'est comme un peu, on pourrait dire qu'on ameublit le terrain et qu'on prépare un contexte favorable à ce que la situation qui nous attend tourne autrement qu'à la guerre.
Cathy.
J'ai une frangine, par exemple, qui a passé toute sa vie à se battre pour faire vivre une école un peu différente, qui est une école Montessori. Alors aujourd'hui, elle est partie à la retraite, mais là, avec le Covid, en fait, elle continue à les bosser parce qu'ils sont tellement dans la mouise que voilà. Mais par exemple, voilà, ça c'est quelqu'un, je trouve. C'est extraordinaire de croire, d'avoir la foi à ce point-là et de tenir. C'est un collectif, quoi. C'est des femmes. Bien sûr, les Halimi et Anko, elles sont. Mais elles sont parce qu'il y avait le groupe, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait tout seul ? On rame, quoi. On est des humains, quand même. Forcément un moment où on baisse les bras quand même. Même si j'ai beaucoup aimé faire ce que j'ai fait, il n'empêche qu'à un moment donné, c'est pas que pour dépanner, c'est aussi pour avoir de la reconnaissance. Et là, j'étais pas reconnue, donc j'ai dit stop. Et du coup, je suis en lien, mais je m'aperçois que j'ai donné beaucoup parce que là, je suis extrêmement fatiguée en fait depuis que j'ai arrêté. Il y a pas longtemps, j'ai arrêté la semaine dernière. Et du coup, je m'aperçois que je vais un peu jusqu'au bout des choses pour essayer de... Mais je vais jusqu'au bout de... j'essaye quand même, quoi. J'essaye quand même de... Bah, entendez-moi, quoi. Ma revendication, elle est juste.
Madame Angèle Goduchot.
Et parallèlement à ça, comme citoyenne, eh bien, je réfléchis à la place de la femme dans la société. Je me souviens que dans les années 70, à peu près dans ces moments-là où je suis née, eh ben, y avait tout ce mouvement de libération des femmes et tout ça. Et je pensais que c'était derrière nous, mais en réalité, c'est toujours le cas aujourd'hui que les femmes sont moins payées, qu'elles ont pas tout à fait les mêmes opportunités de développement que les hommes. Et puis, comme artiste conteuse, cette question du féminin dans les contes, dans les contes de tradition orale, m'intéresse aussi. C'est une question qui est quand même souvent posée aux conteurs, aux conteuses. Est-ce qu'un conte, c'est une chose réactionnaire, sexiste ? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Alors, est-ce que ça veut dire que... les contes sont anti-mariage homosexuel et anti-contraception, enfin tout ça. Et on peut dire que, comme dans tous les domaines artistiques, dans le conte, on n'échappe pas. Il y a aussi des contes sexistes, il y a aussi des contes racistes, sectaires, douteux. Mais bon,
C'est parfois, c'est quand même pas la majorité du temps.
Non, mais ça peut arriver.
Ça peut être interprété aussi comme ça, en fait.
Oui, moments. Puis quelquefois, ouais. C'est vraiment, il y a des contes qui sont... faut regarder de plus près quand même. On n'a pas... Nous qui racontons des histoires, on est quand même responsable de ce qu'on dit, donc de ce qu'on transmet, donc il faut regarder de plus près. Mais voilà, j'avais pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et j'avais envie d'une réflexion sur le long temps avec des gens différents, en plusieurs étapes, en plusieurs années sans doute, des occasions d'être en conflit, pourquoi pas. C'est bon aussi, les conflits, il en sort quelquefois du nouveau sur ce sujet. Et voilà, un festival avec des récits dont les héros sont des héroïnes, et voilà, c'est comme ça que c'est
ça que vous avez eu envie de faire.
Ouais, ouais. Bon. Et donc ça fait que pendant ce festival vont se rencontrer les héroïnes du quotidien, les femmes du quartier, et puis les héroïnes de contes.
Le biais de conteuses aussi.
Par le biais de conteuses, oui.
À Keuvre et Valserie, chaque printemps c'était comme ça. Dès que le jour se levait sur le jardin de la grand-mère, les boutons d'or s'ouvraient, le coq de la maison chantait et la rivière ondulait. Mais ce matin-là, lorsque le soleil s'est levé, les boutons d'or sont restés fermés. Le coq n'a pas ouvert les yeux et la rivière était si limpide qu'on ne la voyait pas frémir. Comme si tout ce petit monde attendait quelque chose. Quant à Bulldozer, elle était encore dans son nid. Oui, vous m'avez bien entendu. J'ai bien dit son nid, enfin son nid. Le nid de sa maman. Mais elle se doutait, elle savait qu'elle n'allait pas tarder à en sortir, qu'il était temps pour elle d'aller voir à quoi ressemblaient les boutons d'or. Ce qui est drôle, c'est que Bulldozer, elle était dans son nid. Et sa maman, elle était dans le lit de la grand-mère. Mais pas de sa grand-mère à elle, non, la grand-mère de Bulldozer, qui était dans son nid, enfin dans le nid de sa maman, qui était dans le lit de la grand-mère. Oui, c'était plus pratique pour elle d'être là, chez le génie. Et oui, ce serait l'aîné. Garçon ou fille, à l'époque, on ne savait pas. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'il ne fallait pas le rater. Et puis chez le génie, il y avait la Berthe. La Berthe, elle était tout le temps là en cas de naissance. Parce qu'elle savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et elle savait que cette naissance-là, c'était pas une naissance comme les autres. Non, naissance par le siège. C'est drôle. Le siège, d'habitude, c'est là où on pose ses fesses. Mais en cas de naissance, le siège, c'est les fesses elles-mêmes. Donc en cas de naissance par le siège, eh ben, c'est le siège du bébé qui arrive en premier, donc ses fesses. Bon, le père, quand il avait su ça... Non, mais même pas né. Il faut déjà qu'il fasse son intéressant. Vous ne pouvez pas arriver comme tout le monde, non, la tête la première. La mère, bon, elle savait que ça n'avait absolument rien à voir. Alors, elle ne disait rien. Et la petite, dans le ventre, faire son intéressant. Mes fesses, ouais. Bon, elle avait autre chose à faire. Puis ça ne lui aurait peut-être pas déplu d'arriver la tête la première. Au moins, on doit voir ce qui se passe devant. Ce qui s'est passé. C'est comme tout le monde, comme on a tous fait. Elle s'est baladée, la tête en bas, sur le côté, le pied dans la main de la mère. Enfin, vous voyez, quoi, comme quand elle avait de la place. Puis un jour, ça s'est trouvé qu'elle était tellement serrée qu'elle ne pouvait plus bouger dans le ventre. Et bien, à ce moment-là, elle avait les fesses en bas et la tête en l'air. Alors, elle est restée comme ça. Elle est née comme ça. Et ça s'est très bien passé. Tout de même vous dire qu'avant le lever du jour, il y avait eu la nuit. Une nuit de vertige et d'éclipse de lune. Et au plus profond de la nuit, il avait fallu que la mère escalade des montagnes de douleur et de joie, qu'elle grimpe de plus en plus haut, sans perdre courage. Bulldozer, elle savait que ce serait en haut de la plus haute des montagnes que les choses vraiment difficiles et vraiment intéressantes allait se passer. En attendant, elle faisait ce qu'il fallait. De temps en temps, elle aidait. Quelquefois, elle était tellement serrée qu'elle ne pouvait plus bouger. Mais elle n'oubliait pas de vérifier régulièrement la bonne mise en place de ces petites bouclettes, histoire de se présenter au monde sous un jour favorable. Au plus haut de la plus haute des montagnes, au lever du jour, elles sont arrivées. Le paysage s'est ouvert. C'était le moment d'y aller. La mer a poussé un grand cri. Les boutons d'or se sont ouverts. Le coq s'est mis à chanter. La rivière s'est mise à ondoyer. La Berthe a dit « Soyez la v'là !» La Berthe savait qu'à ce moment-là, c'était main dans le dos. Les naissances par le siège, on peut juste aider. Et on a vu deux petites fesses qui sont sorties et une jambe qui s'est dépliée, qui est venue se poser avec son pied sur les violettes bleues de l'édredon et une autre petite jambe et torsion. Et hop, une main, fou, une autre main qui se sont posées sur les cuisses de la mère et... La tête qui est sortie, avec ses petites bouclettes bien en place. La Berthe a posé ses mains pour tenir le bébé. C'est à ce moment-là que la petite a regardé sa mère, avec dans le regard une surprise comme venue du fond des âges. Et la mère a regardé la petite en pleurant de rire. Et le génie a dit « Elle va !» Cette petite, elle est peut-être pas décoiffée, mais elle est bien coiffée et part le siège toute seule. Elle aura peut-être pas de la chance, mais moi je vous dis qu'elle aura de la pugnacité et du panache.
Alors, une héroïne, c'est une personne qui fait plein de choses.
Aïcha.
Voilà, ça peut être des choses pour soi-même, mais ça peut être des choses aussi pour la société, qui peut avoir un impact aussi vis-à-vis des gens. Donc, pour moi, voilà, c'est ça. Essayer de sauver le monde un peu.
Ouais.
Voilà. Okay. À notre niveau. Ah oui, je crois que depuis ma naissance, hein. Parce que déjà, je me battais déjà contre la vie, puisque je faisais 1,2 kg. Donc, voilà, j'ai passé 4 mois en couveuse. Puis, bah, j'ai fait mon petit bout de chemin. Après, moi, j'ai une double culture aussi, donc ça n'a pas été facile. Donc, j'ai mon père qui est algérien, ma mère qui est française. Quand t'es petite, ça va. Mais arrive à l'adolescence, bah, tu deviens rebelle, quoi. Donc, j'étais quelqu'un de très rebelle. Donc, Donc voilà, je comprenais pas ces interdits qu'il y avait. Et du jour au lendemain, on n'a pas compris quoi. Tu vois, tu mangeais du porc, t'en manges plus. Tu fais ceci, le ramadan, faut plus mettre de jupe, faut plus ceci, faut plus cela. Donc, je comprenais pas quoi. Et donc à 15 ans, je me suis vraiment rebellé et ça allait vraiment pas. Parce que je voyais mes copines qui sortaient, tout ça, et moi je pouvais pas quoi. Et donc je suis parti vivre un an en Algérie, chez ma sœur.
Ah, t'avais une grande sœur là-bas ?
Oui, donc j'avais une grande sœur là-bas, mais elle qui était déjà féministe. Donc voilà, qui se battait là-bas, elle aussi en Algérie. Et donc elle m'a transmis ça, puisque moi quand je suis arrivé j'étais interne à l'école là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est moi qui ai éduqué les filles, quoi. Voilà, parce qu'elles n'avaient pas de serviettes hygiéniques, parce que les relations garçons-filles, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de relations entre filles. Hein. Donc, elles cherchent aussi de l'amour et tout ça. Donc, moi aussi là-bas, je me suis fait taper sur les doigts parce que j'étais souvent avec les garçons et puis c'est interdit. Donc, j'ai failli me faire virer plus d'une fois. Alors ça va, j'étais chez ma sœur, donc ma sœur a me protégé aussi. Donc c'était une belle expérience. Quand je suis avec ma sœur, c'est toujours une belle expérience. Donc voilà, après c'est les interdits, c'est ils mélangent religion et culture, tradition, ce qui n'a rien à voir. Tu le comprends quand tu grandis, ça. Sinon tu le comprends pas. Bon, quand t'es jeune, tu le comprends pas. Tu te dis pourquoi moi quoi. Pourquoi les autres y font et pas moi. Moi je peux pas faire. Pourquoi je peux pas avoir de copains. Et donc c'est pour ça qu'il se passe des choses. Et à un moment, par exemple, après à 16 ans, je devais aider mon père aussi pour travailler. Donc j'ai travaillé à 16 ans et j'allais à l'école. Mon père a fait 10 enfants. Hein, Donc il y avait beaucoup d'enfants à la maison. Donc après, avec ma belle-mère, on a fait 5. Donc moi, j'étais avec les 5. Et puis, donc j'ai travaillé. Sauf que chaque fin de mois, mon père prenait ma paye. Donc voilà. Et puis, j'ai rencontré mon futur mari. Donc j'avais 16 ans et demi. Et un jour, je me suis baladé dans Paris, un samedi. Je me rappellerai toujours, c'était un samedi, parce que je travaillais aussi le samedi. Et donc, je dis au revoir à mon père. Et donc, avec mon futur mari, on s'était promené et tout ça, et l'heure est passée. Je ne pouvais plus rentrer à la maison.
Parce que c'était trop.
Sinon, je me faisais tuer.
Ah ouais.
Alors, ou c'était je me faisais tuer, ou c'était le risque de partir en Algérie, de se faire marier.
Ah oui, la menace était grande là.
Donc, je ne suis pas rentrée. Je ne savais plus rien. Il n'y avait rien du tout sur moi. Je ne suis jamais rentrée.
Je sais que c'est pas vraiment n'importe quel festival. Vous ne vous contentez pas de faire une programmation, un peu de com et de billetterie. Je crois qu'il y a vraiment eu un choix en fait dans le lieu des spectacles même.
Oui, spectacle, cet lieu. Du quartier dans lequel on est installé, ces lieux sont des lieux solidaires, éthiques.
Habités par des démarches particulières, associatives, souvent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les spectateurs vont être accueillis, sont accueillis dans des lieux par des femmes qui disent ici, vous êtes dans une cuisine collective, ici, vous êtes dans un atelier d'insertion par la couture. Et l'idée générale, on pourrait dire, du festival, c'était. Parler autrement des femmes, d'accord, ou du féminin, parler autrement des contes, et puis aussi parler autrement, faire expérimenter autrement les quartiers populaires et le grand quartier Bellevue sur lequel on est et on vit depuis quelques années. C'est un endroit surprenant et riche, et ça m'intéresse bien que les spectateurs puissent découvrir non seulement des histoires, mais des gens et des lieux.
Oui, puis il y a aussi dans les lieux que vous avez choisis, il y a des gens donc qui mènent des initiatives, et ces gens-là vont venir au spectacle. Et ce ne sont on le sait, hein, pas forcément des gens qui habituellement viennent dans les lieux de spectacle.
Ah, bah c'était, on a ouvert le festival hier, donc c'était la première, première représentation dans un endroit qui s'appelle Des Femmes en Fil, qui est un atelier d'insertion de femmes en difficulté. Voilà. Par le travail, par la couture. Et l'essentiel du public était constitué de ces femmes-là qui vont jamais ou pas souvent, en tout cas au spectacle. Et c'était un vrai bonheur de partager des histoires avec ces femmes-là. Donc oui, il y a aussi ça de travailler... pas sur des grandes jauges, parce qu'on n'est pas... en plus, là, il y a en ce moment les mesures spéciales Covid, mais de toute façon, on n'est pas dans des lieux qui sont destinés au spectacle. Donc...
C'est en fait, il y a des critères de choix de la part de la compagnie La Lune Rousse et de toi, Anne-Gaëlle, de choix de ces lieux, en fait.
Ben oui, c'est ça. On choisit des endroits qui sont solidaires et éthiques.
Ok. En amont de toute cette période festivalière, tu as fait des portraits de femmes du quartier. Comment ça s'est passé, cette affaire-là?
J'avais l'idée, on en connaît depuis le temps qu'on est installé sur ce quartier, des femmes et des actions qu'elles font. Donc j'avais l'idée que c'était à leur manière des genres d'héroïnes de tous les jours. Voilà. Et mon idée, c'était de faire connaissance davantage en les interviewant. J'anticipais pas à quel point c'était une très bonne idée. D'abord parce que quand on va voir quelqu'un en lui disant « tu es une héroïne et dis-moi comment », c'est pas facile de répondre à ça, mais on a pris le temps. Là, les portraits qui seront écoutables sur le site dès septembre, là, ça sera des portraits très courts, d'une dizaine de minutes. Mais pour faire ces portraits-là, on a eu des discussions quelquefois de 2 heures avec ces femmes-là. Donc, on se raconte quand même des choses. Et pour moi, c'était vraiment réconfortant, humainement réconfortant, de me dire « waouh, il y a plein de gens bien, en fait, dans cet endroit où on travaille. »
Il y a aussi des femmes, vraisemblablement, qui ne se rendent pas toujours compte de l'importance de leur action.
Mais presque jamais, en fait. La plupart du temps, les femmes me disent « mais non, d'abord héroïne, franchement, non, je ne suis pas une héroïne, et puis de toute façon, je fais ça parce que j'aime ça, ou bien tout le monde fait comme moi, il n'y a rien de spécial, je fais ce que je dois faire et c'est tout. » Et puis quand même... En me racontant, en me décrivant leur action, en faisant cet effort-là de mettre des mots sur ce qu'elles font tous les jours, elles se rendaient compte que oui, en réalité, elles font des choses super importantes, qui sont peut-être pas plus médiatisées que ça et peut-être pas valorisées plus que ça, mais quand même c'est du travail d'héroïne. Et d'une certaine manière, c'était une des choses qui était vraiment bien dans ces moments-là, c'est qu'en fait, en me parlant, en échangeant comme ça, elle se rendait compte que en effet... à leur manière, elles étaient des héroïnes du quartier. Et d'ailleurs, moi aussi, je me suis rendu compte, parce qu'elles ne se sont pas gênées pour me retourner la question quand même, en me disant, mais toi alors, là, tu arpentes le quartier, et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail d'héroïne? Et je me disais, oui, c'est vrai. Moi aussi, à ma petite manière, je suis une héroïne du coin.
Bon, alors, de tous ces enregistrements qui ont été faits avec des femmes du quartier, qu'est-ce qui va être fait? Il y aura des capsules, il y a un montage, il y a un format particulier.
Mais je te propose je vais t'en faire écouter un petit peu, des petits bouts comme
d'accord.
Et puis on écoute un extrait. Puis on en reparle tout de suite après.
Ça marche.
Pour moi, une héroïne, c'est comme un héros. C'est la même chose. Des fois, tu vois, c'est...
Et donc, c'est quoi?
C'est quelqu'un qui a le don de soi, qui fait pour le mieux, qui cherche pas à être le meilleur, mais qui donne en tout cas le meilleur. On a chacun nos propres limites, quoi, qu'on soit homme ou femme. On a tous des limites, on a tous nos caractères, on a tous... des talents, des défauts. Pour moi, un héros ou une héroïne, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça.
Alors, une héroïne, moi, je pense que, après, ça n'engage que moi, c'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres. À une époque, je ne savais pas dire non. Voilà, j'ai appris à dire non. Ça me fait mal au cœur, mais je dis non. Alors, j'ai droit aux insultes. Ouais, maintenant, depuis que je dis non. Il y a des choses, ça passe, des choses, ça passe pas. Mais l'héroïne, elle doit être droite, même si elle galère, elle doit toujours rester honnête au fond d'elle-même.
Alors, je pense tout de suite à Wonder Woman.
Ah oui.
Quand même, hein.
Quand même.
Ouais. Et en même temps, à Sœur Emmanuelle. Héroïne, c'est, pour moi, c'est ça. C'est que ça, on peut voir quelqu'un de très forte, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on pourrait dire fragile ou qu'on ne voit pas forcément et qui, du coup, fait un énorme travail. Je me qualifierais plutôt de passeur. Moi, je pense que je suis, voilà, c'est plutôt être passeur et de transmettre des choses, en fait, aux enfants, aux ados, aux adultes.
Hein. On ne dit pas ça, on dit pas ça au féminin, ça ne marche pas. Je suis une passeuse, c'est...
Non, il y a des mots, voilà, il y a des mots masculins, des mots féminins, ouais. Mais passeur, oui, je suis un passeur. Allons-y.
Sandra Bellor, bonjour.
Bonjour, Anne-Gaëlle.
Odile,
ouais.
Rousse, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es héroïne du quotidien, héroïne de ce quartier-là. Ça te fait quoi?
Eh ben, écoute, c'est un. Heureusement que tu m'en as parlé l'autre fois parce que c'est un titre. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais pour avoir un titre? Et puis finalement, évidemment, quotidien. Il y en a plein des héroïnes et des héros d'ailleurs du quotidien et pas que moi. Mais je trouve qu'en effet, oui, c'est vrai. J'en fais partie. Donc pourquoi pas.
Ce que j'ai bien aimé quand je t'ai demandé si tu étais d'accord que je vienne t'interviewer l'autre jour, tu m'as dit bah je suis d'accord mais j'ai besoin quand même de vérifier que je vais pas être toute seule.
C'est ça. Ouais.
Parce que des femmes qui font un travail d'héroïne du quotidien sur le quartier, il y en a plein.
Ouais.
Et je voudrais pas être comment tu disais là, une figure.
Oui, c'est ça. C'est ça, moi j'aime beaucoup m'inscrire dans des choses qu'on porte à plusieurs. Et de toute façon, c'est ça qui fait aussi que la vie change et que notre quotidien a du sens aussi. C'est quand on est inscrit dans des groupes, quand on voit des interactions et on sait très bien que les choses évoluent quand on est plusieurs à les faire évoluer, quoi.
C'est pas pour dire, aujourd'hui, rencontre d'héroïnes. Il y a donc ces portraits de femmes du quartier, et puis la rencontre avec des héroïnes de contes et des femmes conteuses. Enfin, cette année, ce ne sont que des artistes femmes. C'est exprès, ça, Anne-Gaëlle ?
Non, pas du tout. Ça s'est trouvé comme ça. C'est-à-dire que quand je me suis penchée sur cette programmation de récits dont les héros étaient des héroïnes, j'ai cherché les récits d'abord. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens qui avaient travaillé sur ce thème-là et qu'il y avait de quoi faire 2, 3, 4 ou 5 festivals. Bon, alors, cette année, c'est des femmes, mais j'ai quelques hommes en tête.
Mais enfin, quand même, est-ce qu'on peut dire que majoritairement, ce sont des femmes qui racontent des histoires de femmes? Et est-ce que les hommes s'intéressent aussi au féminin?
Ah oui, oui, oh, bah, alors là, il n'y a vraiment pas de...
Il n'y a pas de...
Non, les hommes racontent aussi des histoires de femmes. Mais ce qu'on pourrait dire, par contre, c'est que c'est comme dans la cuisine...
Dans la grande cuisine, hein. On parle pas du fourneau ménager là.
Ben si, justement, on pourrait dire que dans la vie de tous les jours, il y a à peu près 80% des femmes qui font à manger, et d'accord. Puis 10% qui sont très très les 10% qui sont très très connus, les grands chefs, c'est des hommes. Eh bien, on pourrait dire que chez les conteurs, c'est pareil. La majorité sont des femmes. Et puis, les très connus, ou bien très subventionnés, ou bien ceux qu'on a mis, en tout cas ces dernières années, ces derniers 30 ans, à la tête d'un lieu, d'un lieu structurant pour le conte, c'était des hommes. J'ai souvenir de plusieurs rencontres, des grandes messes type pourquoi raconter aujourd'hui au théâtre du Rond-Point, par exemple. Il y avait une salle qui était remplie de femmes.
Et sur la scène.
Et sur le plateau, des tables rondes. Et tout ça. Ouais. Les intervenants, c'était des hommes, quoi. Donc, c'est pas mal aussi de rétablir quelque chose comme une forme de... justice, il y a plein de femmes. Et...
Bon, donc, à bon entendeur, salut. Hein,
veut des subventions.
Et surtout, que l'oreille du ministère de la Culture s'ouvre.
Mais oui, et qu'ils mettent des femmes
sur des lieux importants.
Mais bon, voilà. Pour répondre plus précisément à ta question, non, quand même, l'année prochaine, il y aura des hommes aussi. C'est pas un festival...
Parce qu'il y a quand même pas mal d'hommes aussi qui commencent. Enfin, j'en parle parce que je rencontre pas mal d'hommes aussi dans mes interviews. Mais il y a pas mal d'hommes qui commencent à partager ces valeurs féminines.
Bien sûr, parce que là, on parle aussi du féminin à l'intérieur de nous. Et donc, bien sûr que de plus en plus, c'est de plus en plus valorisé, y compris chez les hommes, de laisser vivre leur part féminine.
La marraine de cette année, c'est Praline Guépara. Alors, qui est Praline Guépara dans le milieu du conte ?
Praline, c'est Praline Guépara. Elle est au départ une ethnolinguiste. Elle s'est donc intéressée à la manière dont vivent les gens et à leur langue, les mots qu'on utilise pour dire les choses et à la culture que ces mots véhiculent. Je ne sais pas si c'est une bonne définition de l'ethnolinguiste, mais et puis elle est venue au conte, elle dit un peu par hasard, enfin comme ça, et ça fait maintenant une bonne quarantaine d'années qu'elle raconte. Elle a édité pas mal de livres. Elle est, moi je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps et pour faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que je suis allée l'interviewer chez elle. C'était une émission, une rencontre vraiment sympa et une émission que j'ai trouvée très intéressante. Elle est militante, très militante, et depuis un moment, notamment auprès de des gens qui ont traversé la mer, qui ont quitté leur pays pour essayer de trouver une vie meilleure ou pour survivre. Elle accueille des migrants chez elle, mineurs. Un genre de star dans le milieu du conte, comme il y en a quelques-unes. Alors elle a dit non, pas star, j'aime pas les stars, je suis plutôt une luciole. C'est joli. Et voilà, l'année prochaine, ce sera quelqu'un d'autre qui sera marraine du festival. L'idée, c'est de croiser les réseaux, les esthétiques, les points de vue, pour vraiment brasser au mieux qu'on peut cette question du féminin dans la société et dans les contes de tradition orale.
On raconte chez les Samis de Sibérie qu'il y avait autrefois une jeune fille aux pieds très agiles. Chaque fois qu'un jeune homme lui déclarait sa flamme, elle prenait ses jambes à son cou et elle partait plus vite que le vent. Jamais un jeune homme n'a réussi à la rattraper. Jusqu'au jour où un jeune homme fou, amoureux, transi, devant sa cota, sa tante, lui fait sa déclaration. Elle part comme une flèche, il la suit, et les voilà qui courent. Elle, de temps en temps, s'arrête. le laisse approcher, puis elle repart de plus belle. Lui, au début, il suit. Puis petit à petit, il l'oblige à prendre la direction de la montagne. Arrivé au pied de la montagne, elle escalade le flanc de la montagne comme une flèche. Lui, il court encore, mais petit à petit, il s'épuise. Elle, elle va de plus en plus vite. Elle arrive au sommet et d'un bond, elle arrive dans un nuage gris. Et de son nuage, elle observe le jeune homme qui commence vraiment à avoir du mal à courir. Elle le voit, qui arrive au sommet de la montagne et qui s'écroule à bout de force. Elle descend de son nuage, inquiète, s'approche du jeune homme. Il a juste assez de force pour articuler de l'eau. Il n'y a pas d'eau au sommet de la montagne. Elle découvre ses seins, les presse au-dessus de ses lèvres. Quelques gouttes de lait atteignent les lèvres du jeune homme et c'est assez pour lui redonner vie. Mais juste à ce moment, une bourrasque violente se met à souffler et emporte le lait de la jeune fille jusqu'au ciel, en une traînée blanche. Quelques gouttes de son lait retombent sur elle et la transforment en statue d'argent. On dit que le jeune homme a repris force et vie, qu'il est rentré au campement et qu'il en est mort d'amour. Quant à la jeune fille d'argent, quand vous et moi nous regardons le ciel la nuit, nous voyons encore la trace de son lait, que nous appelons la voie lactée, et une lueur argentée dans la nuit. C'est le reflet de la jeune fille d'argent. Ça s'est passé comme ça, et pas autrement.
Festival Héroïne de 7 lieues, un festival dans un quartier populaire, et pourquoi ça, dans un quartier populaire? Quelles sont les raisons? Parce que j'imagine que c'est peut-être plus dur, non, pour trouver les financements de ces opérations, de faire venir la presse, de communiquer, d'avoir des spectateurs, de faire un brassage de public, etc.
Oui, c'est vrai. Bah, il y a plusieurs raisons. C'est qu'on est en résidence depuis plusieurs années dans ce quartier et qu'on commence à l'aimer et à le connaître un peu. Ça, c'est une première chose. Et puis, et c'est vrai que depuis des années, par exemple, tous les hivers, on fait une programmation de comptes appart, donc dans les apparts, dans les tours et les appartements du quartier. L'été, avec notre engin, cette scène mobile qu'on a appelée la bête de scène, on est au pied des immeubles. Et on aurait pu appeler ça festival aussi, parce que c'est une programmation régulière tout l'été et tout ça. Et qu'on a un peu de mal, on a eu jusqu'à maintenant un peu de mal à faire venir la presse, parce que quand on fait des trucs dans Nantes, dans le centre-ville et tout ça, c'est facile. Mais dans les quartiers, ça fait une belle vue, c'est fait partie de ces quartiers qui, de l'extérieur en tout cas, font un peu peur. Ça crame de temps en temps, ça chahute pas mal. Enfin, c'est une concentration d'une population qui a pas de sous. Hein. En ce moment, dans le quartier, il y a des distributions alimentaires pour plusieurs centaines de personnes qui n'ont pas assez à manger. Hein, donc,
Mais tu vois, si je me trompe pas, il y a quand même une préoccupation nouvelle du politique. En direction de ces quartiers.
Ben, j'espère bien.
Du point de vue de la culture, du point de vue de ce qui se fait aussi vis-à-vis des scolaires.
Ouais, j'espère bien, mais c'est vrai que même encore récemment, et malgré les déclarations, disons, politiques à plutôt haut niveau, dans les faits, en réalité, si on est un artiste, on doit être dans le centre-ville et dans les théâtres, et si on est un artiste et qu'on intervient dans les quartiers, on n'est pas vraiment considéré comme un artiste, mais plutôt comme un animateur, comme quelqu'un qui fait de l'animation. Mmh. Et d'ailleurs, quand on fait une programmation exigeante, la plupart du temps, les gens, nos interlocuteurs s'en fichent. Ah, un petit téléphone qui sonne. Mmh. C'est ton téléphone qui fait du Brésil comme ça. Mmh. Oui, c'est difficile hein, de tenir ces deux rênes-là, le côté militant et action citoyenne et en même temps l'exigence artistique. Et on n'est pas considéré comme légitime quand on tient ces deux rênes-là.
Ces deux aspects-là.
Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est vrai qu'un festival, donc, dans un quartier populaire comme celui-là, on est un peu comme le petit frère, tu sais, le troisième dans les contes, celui sur qui on ne parierait pas. Mmh. Mais enfin, on sait bien que c'est quand même eux qui y arrivent. Et c'est assez réjouissant dans cette année particulière où les grands festivals, beaucoup de grands festivals ont jeté l'éponge, soit se sont annulés, soit ont carrément arrêté tout et tout ça. Mmh. C'est assez réjouissant de prendre ce pari et de démarrer maintenant.
D'une façon générale, on peut dire que l'équipe de la compagnie La Lune Rousse que vous êtes a pas mal l'agnac, non ?
Oui.
Si on peut dire ça comme ça.
Et puis on croit que ça a du sens de faire ce qu'on fait et on expérimente ça, ce que ça produit. Et puis je peux dire, parce que là on en est au premier jour du festival, donc ça y est, on est rentré dedans. J'ai beaucoup parlé de ce festival à la presse, à la radio, enfin autour de nous. Et je trouve que c'est très soutenant aussi l'enthousiasme que j'ai rencontré depuis que j'en parle, que j'ai rencontré
auprès
de tous ces gens-là. Mmh. Depuis, ouais. Alors, on va pas se décourager. On est des héroïnes, non ? Yeah.
Thank you.
Merci Abigail Godichaud, merci la compagnie La Lune Rousse. C'est pas pour dire, c'est fini pour aujourd'hui. Les portraits de femmes dont nous parlions tout à l'heure seront disponibles sur le site Histoire vécue, histoire rêvée, tout attaché. Hein. Madame Angèle Godichaud, salut, au revoir.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Godichaud et présentée par Charles Cécile.
A dream.